Et je veux juste parler un petit peu des Bouddhas dans un autre contexte, là. Non, c'est pas vraiment un autre contexte, c'est une autre vision de la même, du même monde là. Ils sont aussi, s'ils sont là, on a décrit un petit peu, Uchimani a décrit comment ces images sont évoluées à travers la méditation des gens. Donc, ils sont l'objet de visualisation. Il y a des pratiques de méditation, de visualisation basées qui utilisent ces cinq Bouddhas. Donc, ils sont aussi objets de dévotion. Et il y a deux raisons pour cela auxquelles j'ai pensé en préparant cette conférence. Il y en a peut-être bien d'autres, mais voilà, il y a deux dont je voulais parler ce soir. Une, c'est qu'ils donnent à notre imagination un accès direct et puissant à divers aspects de l'esprit éveillé. Si on veut parler de l'éveil, on peut essayer de le décrire en mots. Mais comment est-ce qu'on peut distinguer ces différents aspects de la sagesse, qui est une sagesse que nous, par notre nature non éveillée, nous ne pouvons pas vraiment complètement comprendre. Donc, avec l'intellect, avec les concepts, on est limité. On ne peut pas aller jusqu'au bout dans notre recherche, notre recherche à comprendre ce que c'est l'éveil. Donc, on a besoin d'autres moyens. Et donc, c'est par l'image, par le symbolisme, par les archétypes, par l'imagination qu'on peut parvenir. Et c'est pour cela que ces Bouddhas existent aussi, pour donner accès à l'expérience de l'éveil, mais pas un autre biais, par notre imagination, par quelque chose qui passe en dessous ou là, qui contourne notre intellect, qui essaie toujours de catégoriser, de caser et de limiter les choses. Donc par l'image et le symbolisme, nous dépassons l'intellect, laissons la place à l'intuition spirituelle. Ces images parlent à notre intuition spirituelle, parlent aux parties de nous qui sait quelque part ce que c'est l'éveil, même si on ne peut jamais vraiment le mettre au mot, le comprendre intellectuellement. Donc c'est une façon pour nous, à travers ces images, d'entrer en contact pleinement avec le Bouddha et avec la nature d'éveil qui est déjà en nous, ou au moins le potentiel, l'intuition de ça qui est déjà en nous. Une autre raison est qu'ils sont là pour nous aider à progresser vers l'éveil, pour traverser ce qu'on appelle le bardo, l'état intermédiaire entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous deviendrons. Et en fait, ce mot bardo, on le trouve dans le livre, le Bardo Todol, qui est souvent traduit comme le livre tibétain des morts. Pourtant, le titre Bardo Todol n'a rien à voir avec la mort. Bardo, ça veut dire état intermédiaire ou entre deux. Et c'est un texte tibétain qui donne des instructions pour guider quelqu'un après sa mort dans la traversée entre cette vie et la prochaine, essentiellement. Il y a plein d'autres choses dedans aussi, mais essentiellement c'est connu pour ça. Et donc c'est un... Si vous regardez le texte, c'est un mélange d'instructions à la personne qui va guider la personne qui est morte et des choses que la personne qui guide devrait dire à la personne qui est morte, et puis des prières des récitations que la personne qui guide la personne qui est morte donne à la personne qui est morte pour qu'elle elle peut pas vraiment littéralement, mais pour qu'elle les récite, ou elle les récite pour elle en quelque sorte. Donc on a ces versets de prière ainsi que des instructions pour l'utilisation du texte. Et en fait, ces cinq Bouddhas ont une place importante dans ce livre, dans ce passage entre la mort et la prochaine renaissance. Ils sont là pour guider la personne en fait. Donc comme j'ai dit, bardo veut dire un état entre deux. Mais en fait, en réalité, vous savez, on vous a bien dit, vous avez bien appris que tout change, tout est change et changement. Donc en fait, il n'y a pas deux, il n'y a que entre deux. On est toujours en train de nous transformer, on est toujours en train de changer. Donc en fait, quand on regarde bien les bardos, il y en a six qui couvrent à peu près tous les états humains. Parce que rien ne reste fixe et figé. Donc voilà, on est, les six bardos, il y a l'état de conscience de veille, donc c'est l'état de normal de l'être humain. Il y a l'état de conscience de rêve, il y a l'état de conscience de la méditation profonde, et puis il y a l'état d'expérience de la mort, l'état de l'expérience de la réalité qui vient après la mort, quand on est confronté après la dissolution du corps à la réalité des choses dans le bardo de la mort. Et puis il y a l'état de conscience de la renaissance, de redevenir au moment où on reprend une naissance. Et selon le bardo Todol, les cinq bouddhas apparaissent l'un après l'autre dans l'état d'expérience de la réalité. Donc c'est après la mort, un moment après la mort, où la personne est confrontée à un choix. Donc l'idée c'est que la personne est morte, et la personne physique, le corps physique est mort, et puis il y a la conscience de la personne qui passe aux prochaines étapes. Et à ce moment-là, elle a un choix. Elle est confrontée à un choix entre le chemin vers une renaissance dans un des terres pures des Bouddhas archétypaux et le chemin vers une renaissance dans le monde humain. Donc c'est à ce moment-là, si on est bien entraîné et bien prêt, préparé, on peut choisir de ne plus renaître en tant qu'être humain et aller vers l'une des terres pures des Bouddhas. Et chacun des Bouddhas a sa terre pure. Une terre pure, c'est un lieu où le Bouddha est au centre d'un monde où la vie est facile, il n'y a qu'à écouter le Dharma et atteindre l'éveil. C'est dit que l'événement, la nourriture, tout arrive sans qu'on demande, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Si vous croyez à ça ou pas littéralement, c'est à vous de choisir, mais voilà, je vous donne l'histoire de tout ça, le contexte. Mais ce qui est important pour nous, en fait, c'est que ce choix, on a à chaque moment ce choix. Est-ce que je continue mon petit bonhomme de chemin comme je suis, ou est-ce que j'ai choisi quelque chose de plus élevé? Est-ce que je choisis l'éveil? Est-ce que je choisis, d'aller vers l'éveil, vers quelque chose de plus élevé? Et dans ce bardo, dans le texte, chacun des Bouddhas apparaît, l'un après l'autre, avec leur paraître. Et la personne est encouragée par la personne qui guide à aller vers l'un d'entre eux, de ne pas avoir peur de la lumière brillante qui émane de lui et de le reconnaître comme manifestation de la sagesse profonde. Et donc, une petite parenthèse sur les paraîtres, parce que chaque Bouddha a aussi une paraître. Il y a un Bouddha féminin qui est associé avec lui. Ces Bouddhas féminins sont évolués un peu plus tardivement dans l'évolution de cette image du mandala. Et sont représentés en union sexuelle avec les Bouddhas. Et chacune a ses propres accoutrements et sa propre couleur. Normalement, elles partagent un peu les mêmes éléments et associations avec le Bouddha. Et cette union représente l'union la plus haute de la pratique spirituelle où les aspects de la sagesse et de la compassion de l'éveil sont complètement et définitivement unifiés. Donc c'est vraiment la complétude de l'éveil. Et la paraître d'Akshobhya s'appelle Lochana. Et en fait, on l'a vu dans le défilé de photos dans le diaporama, il y avait une image de Lochana là. Lochana veut dire celle qui voit. Et elle incarne l'attention pure, la conscience claire et directe des choses. Ce qui suggère qu'en fait, qu'il n'y a pas de sagesse sans attention. Il faut être attentif, il faut voir, il faut regarder, il faut écouter, il faut être présent pour avoir de la sagesse. Elle est de couleur bleu clair et porte le même vajra que Akshobhya, sauf qu'elle la porte dans sa main droite, et dans sa main gauche, elle porte une cloche vajra qu'on a sur le, juste à côté de la fenêtre là. Donc c'était juste une petite parenthèse parce que je pensais que c'était quand même bien de mentionner les paraîtres un petit peu. Mais pour retourner dans notre bardo de la réalité, où apparaissent les cinq bouddhas, je veux juste vous lire la partie du bardo Todol qui concerne Akshobhya pour vous donner un petit peu un goût de ce contexte où il apparaît dans cette, ouais, les versets de prière qui lui sont adressés. Donc cette partie-là, c'est ce que dit la personne qui guide la personne qui est morte. Noble fils, écoute sans distraction. Une lumière blanche qui est la sublimation de l'élément eau t'apparaît le second jour, simultanément avec la vision du très haut Vajrasattva Akshobhya, du royaume bleu lumineux de l'Est, appelé l'actualisation de la joie. Vajrasattva au corps bleu, tenant à la main le vajra à cinq branches, est assis sur un éléphant. Il est bouche à bouche avec la mère divine Bouddha Lochana. Ils sont entourés des bodhisattvas masculins Kshitigarbha et Maitreya et des bodhisattvas féminins Lashya et Pushpa. Ainsi t'apparaîtront ces six aspects du Bouddha. La sagesse fondamentale, semblable au miroir et agrégat de la forme purifiée, est une lumière blanche transparente et éclatante, jaillissant du cœur du divin Père Vajrasattva et de sa paraître. Elle t'éblouit au point que tu ne peux le regarder. Une terne lueur gris fumée te parvient simultanément avec cette lumière blanche de la sagesse fondamentale. À cause de la haine et de la colère que tu portes en toi, tu seras effrayé par la lumière blanche et tu voudras fuir. Au contraire, tu te sentiras attiré par la terne lueur ténébreuse gris fumée. C'est à ce moment qu'il te faut ne pas craindre la lumière blanche, la clarté éclatante, mais au contraire la reconnaître comme celle de la sagesse fondamentale. Mets en elle ta foi et abandonne-toi en elle. C'est le rayonnement de la compassion du Bhagavan. Pense avec foi, en elle je prends refuge. Adresse-lui tes prières car il est le Bhagavan Vajrasattva Akshobhya, venu pour te délivrer de la crainte et de la terreur de l'état intermédiaire. Appelle cette lumière. Elle est le crochet des rayons de la compassion de Vajrasattva Akshobhya, par lequel il te sauve. Ne te laisse pas attirer par la terne lueur ténébreuse gris fumée. C'est le chemin qui t'est offert venant de tes actes nuisibles et des voiles qui recouvrent ton esprit, accumulés par une violente colère. Ne t'y attache pas. Sans quoi tu tomberas dans les états infernaux où tu subiras des souffrances et des misères intolérables, sans que vienne rapidement le temps d'en sortir. C'est un obstacle sur la voie de la libération. C'est pourquoi ne sois pas attiré par tout cela. Ne le regarde pas, ne t'y attache pas, abandonne ta colère, ta haine. Mets ton espoir en la lumière blanche, claire, transparente et éclatante. Plein de dévotion, adresse-toi au Bhagavan Vajrasattva et prononce cette prière. Hélas, tandis que j'erre à cause de ma profonde colère-haine dans le cycle des existences, sur le chemin de la lumière qui fait apparaître la suprême connaissance semblable au miroir, que le Bhagavan Vajrasattva me guide et que la mère divine Buddhalochana me pousse par derrière. Je vous supplie, libérez-moi des horribles abîmes du sentier de l'état intermédiaire. Conduisez-moi vers la pure et parfaite bouddhéité. Donc c'est un moment crucial, ce moment de choix après la mort. Je ne sais pas s'il faut prendre ça littéralement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on est face à ce choix à n'importe quel moment, en fait, entre nos habitudes, que ce soit la colère ou peut-être c'est un autre poison qui est votre favori, et la possibilité de l'éveil. Ou on peut le regarder comme un moment crucial, que ça peut vraiment l'être après notre mort, pour lequel un bouddhiste s'entraîne tout au long de sa vie. En fait, c'est en partie pour ça que ce livre existe. C'est pour qu'on puisse s'entraîner, pour bien pouvoir reconnaître les cinq bouddhas. Dans ce moment d'incertitude et de peur, il faut se familiariser avec eux par la pratique de la méditation. Tout comme pour reconnaître la sagesse, la vraie nature de la réalité, il faudrait aussi s'entraîner. Il faut l'apprendre, méditer là-dessus et venir à la connaître intimement par notre expérience directe. C'est ceci que notre rencontre avec les Bouddhas archétypaux représente, une occasion de voir la réalité directement par l'imagination qui contourne et qui dépasse la cognition intellectuelle. Et nous n'avons pas à attendre la mort pour rencontrer Akshobhya. Nous pouvons déjà faire sa connaissance et il peut déjà nous aider dans tous les bardeaux de notre vie. Sa présence peut nous aider à rester imperturbable devant les défis et les difficultés rencontrées dans notre vie et notre pratique, à avoir confiance dans nos actions positives et dans notre capacité à nous éveiller, à transformer notre colère et notre haine en sagesse semblable au miroir, par laquelle nous verrons les choses exactement telles qu'elles sont, sans distorsion, sans les saisir ni les rejeter, et à aller au travers une attention claire à notre expérience et en voyant sa vacuité au-delà de l'attachement à notre forme physique. Avoir enfin la non-différence entre samsara et nirvana et nous libérer de notre vision duelle des choses. Om Vajra Akshobhya Ong.